Bien, je vous propose d'enchaîner avec une communication de Manuel Roux. Donc, Manuel, je te laisse te présenter peut-être rapidement et puis.
Je suis doctorant en sciences de l'éducation au laboratoire culture et diffusion des savoirs et je suis surtout co-dirigé par Luc et Solveig. Alors bon, vous connaissez ma tête pour la plupart d'entre vous. thank you, Michael. Thank you. Thank you to introduce my scene. Yeah, because European scene, but we can talk about Touche Amore, Fried Body, State Force, and it's my scene. So thank you so much. Parce qu'en fait, moi, mon terrain, ça traite beaucoup de cette scène française là. Donc, je suis très content qu'il ait introduit. L'histoire un petit peu aux États-Unis de cette scène-là, quoi. On pourrait parler aussi de la scène française, mais bon. Pour rappeler ma thèse, faire ça rapidement, ma thèse, l'intitulée, c'est « Réussir en marge des institutions, la question de l'intelligence punk, étude des carrières sociologiques punk et des nouvelles formes d'épanouissement personnel ». J'ai écrit cette communication durant mon écriture de thèse, là. Donc là, je suis sur la fin. Donc, je vous prie de croire que c'était pas la chose la plus facile à faire, mais bon, quand même, là, je pouvais que sauter sur l'opportunité de parler de mes travaux. Un gros merci quand même à l'organisation, et surtout à Luc et Solveig. On sait qu'ils ont, là, c'est un peu compliqué ces temps-ci. Donc, vraiment, force à eux quand même, parce que c'est cool. Je vais faire rapidement la méthodologie. On pourra en discuter après si vous voulez, mais c'est pour gagner du temps. Je travaille sur un segment de la scène française contemporaine très précise, hein, qu'eux, ils appelleraient DIY. Une bonne partie de la scène, donc ça, le style, ça va être plutôt screamo. Hein, donc, on parle du coup de ce que ça fait écho à ce que disait Michael juste avant. J'ai fait l'observation participante. Donc, je suis un acteur de la scène, donc qui m'a donné un accès privilégié au terrain. Autour de groupes d'individus se disent appartenir du coup à la scène punk ou du moins la scène screamo, DIY, né entre 1980 et 1998. L'activité de mon groupe PAST là, m'a permis d'accéder à ça et j'ai réalisé d'entretiens entre 2016 et 2021, plusieurs fois des entretiens sur auprès des mêmes personnes, donc semi-longitudinal si on veut. Donc des fois c'était sur 4 ans d'écart, donc bon. J'ai aussi mené des entretiens avec des dirigeants de salles de concert, de politiciens, de personnes politiques, pour questionner la porosité de la scène, des gens qui étaient punk et qui sont maintenant dans des salles subventionnées, directeurs de salles subventionnées. Bon, voilà, je la fais courte. Et aussi du terrain partout en Europe avec mon groupe là en tournée, donc tout ce qui est squat, etc. On pourra en discuter si vous voulez, l'état des la gentrification, ce que ça fait, etc. On pourra en parler un petit moment si vous voulez. Et un travail d'archives aussi. Donc du coup l'archive de la Rose School Barbet, il en a parlé, Luc et aussi Solveig, ils en ont parlé dans leur bouquin. Donc bon, je vous laisserai voir ce truc là. Je vous conseille le bouquin là, il est assez dingue, donc n'hésitez pas à le prendre. L'intitulé de ma thèse, du coup, alors voilà, je fais vite. Digital Practices versus Punk Independence, Discussion of Redefining Artistic Work. Ça fait encore le lien avec ce que disait Michael. Hein. Donc là, je parle en français, finalement, c'est plus simple pour moi. J'ai laissé les diapos en anglais pour ceux qui parlent pas français. Ce qui m'intéresse ici, c'est du coup d'étudier les formes de travail particulières à travers l'objet des pratiques punk, au regard des nouveaux phénomènes du travail sur plateforme numérique. Ce phénomène remet en question, selon moi, nos catégories de perception sur la question du travail. Mais d'abord, on va faire un petit rappel de l'état de l'industrie culturelle, parce qu'il me semble qu'il y a besoin là, et les chiffres vont très vite. Donc du coup, mes chiffres peuvent être assez anciens, donc faut réactualiser ça, et c'est difficile de trouver la littérature là-dessus. Selon le rapport de Recording Industry Association of America, les plateformes de streaming auraient généré 83% des revenus de l'industrie musicale en 2020. C'est énorme. Alors qu'en 2015, ils ne dépassaient que les 25%. Nous savons que le total des échanges de biens et de services culturels rapportés au sein de l'ensemble des échanges mondiaux a doublé entre 2004 et 2013 et ont généré un montant global d'environ 213 milliards de dollars US. Donc là, je tiens ces chiffres-là de l'UNESCO Institute for Statistics de 2016. Donc c'est un peu vieux. La démocratisation, voire, là moi je parlerai carrément de massification des pratiques musicales, aurait été permise par le développement de l'autoproduction, bien évidemment, en régime numérique, donc voilà, ainsi que le montage de microstructures permettant aux amateurs de diffuser eux-mêmes leurs œuvres. En 2016, la production musicale indépendante constituait 38% des parts de marché face à l'ensemble de la consommation mondiale de musique enregistrée. Bon, bien sûr, il faudrait faire une étude plus poussée là-dessus pour voir réellement la part des amateurs. Qu'est-ce qu'on appelle amateur, qu'est-ce qu'on appelle professionnel? C'est tout un enjeu. On peut parler d'un réel business DIY, hein, selon moi, hein, qui, c'est pas que selon moi d'ailleurs, hein, d'après Driver et Eiters, il y a un article qui a été publié aux Pays-Bas là-dessus. Je vous conseille d'aller le voir, il est payant, mais je pourrais vous le donner si vous voulez. Bon, bref. On peut parler donc d'un réel business qui dépasse largement le cadre de la scène punk. Hein. En France, les pratiques culturelles connaissent un essor constant, même si c'est freiné aujourd'hui, où près de 4 personnes sur 10 disent mener au moins une pratique artistique, selon Lombardo et Wolf. Donc ça, c'est une étude qui date de 2020. La sociologue Janir Ranou essayait déjà en 2003 de mesurer les premiers effets de cette reconfiguration du marché artistique. Je cite, « Cette croissance a répondu à une augmentation de l'offre d'emploi, mais a toujours été plus rapide que cette dernière, et s'est traduit par une dégradation des conditions d'emploi pour le plus grand nombre sur un marché du travail dont l'évolution se caractérise par une diversification des lieux et des formes de production et de diffusion. » Bon. Là, on va parler du coup du problème des plateformes. Et après, on en viendra à la scène punk. Hein, mais excusez-moi, je fais un état des lieux avant hein, pour qu'on connaisse un petit peu de quoi on parle, en fait, hein, tout simplement en termes de grosses structures économiques. Hein. Donc aussi, les travaux américains de tradition critique à l'origine d'ailleurs du concept de gig economy voient les systèmes de plateformes comme un ensemble de dispositifs permettant l'inversion des causes des conséquences dans la chaîne de production pour expliquer la création de valeurs économiques. Le modèle économique des plateformes reposerait, donc selon eux, sur la mise à disposition de services de distribution et à des artistes auparavant producteurs de biens culturels, mais transformés par ce rapport de production en de simples utilisateurs. Là, je cite Gandini, 2019. Ces recherches mettent l'accent sur la pratique d'exploitation du travail gratuit. Pareil, là, je cite encore un article de Sicheli et October 2021. Des plateformes de médias sociaux en contribuant du même temps à son invisibilisation et donc à en neutraliser le fait que ce sont les producteurs qui en produisent la valeur. Ces plateformes fonctionneraient ainsi à la fois comme un intermédiaire entre une offre et une demande potentielle, mais aussi comme des employeurs fantômes. Donc Gérald Friedman, 2014. Il participe également de travaux déjà menés sur le travail matériel. Alors là, le travail matériel, je conseille à absolument les gens qui là à vous hein, de travailler sur la littérature créée par la Radical Thought in Italy. C'est des philosophes italiens qui ont marxistes hein, plutôt qui ont travaillé là-dessus sur le travail matériel et qui ont déjà senti ce qui allait se passer. C'est des travaux qui datent des années 90. Hein. Donc en partant de ce constat que dans cette activité, il est de plus en plus difficile de distinguer le temps du travail du temps de reproduction ou du temps libre. C'est pour ça que je parle de restructuration de la notion de travail. Enfin, là, il y a un réel travail sociologique à mener là-dessus, à mon avis. Donc aujourd'hui, les producteurs sont soumis à une forte concurrence de par l'offre massive mise à disposition sur ces plateformes. Hein. Je rappelle massification de la production culturelle et de la diffusion. Ce phénomène de massification du nombre de producteurs doit être rapporté aux faibles chances de dégager des revenus de ces productions. L'avènement des plateformes de streaming invite à repenser notre conception du travail, ce qui nécessite de questionner les effets de ces dispositifs sur les rapports de production. Le fait de percevoir des rétributions économiques de son travail de production artistique au travers d'un emploi est un critère de moins en moins pertinent pour redéfinir la catégorie de musicien. Donc là, on pourra questionner l'intermittence, hein, si vous voulez. Là, c'est pour parler la France, quoi. J'en étais où ? L'avènement des plateformes de streaming invite à repenser les conditions de travail. Et pourtant, c'est devenu progressivement une nécessité à laquelle n'importe quel acteur du monde culturel et de la musique ne peut désormais s'affranchir. Produire et diffuser ses œuvres artistiques sur scène ne suffit plus pour être défini comme artiste-musicien. Il faut être également présent virtuellement pour exister dans ce champ culturel de plus en plus élargi. Nous pourrions donc dire qu'exister en tant qu'artiste passe ainsi par une existence numérique. Les punks ne font d'ailleurs pas exception et sont également soumis à, pour reprendre les termes de Nathalie Heinick, à cette économie de la visibilité. Cette course à la visibilité demande également de développer et d'adapter des compétences spécifiques de communication à des plateformes qui proposent des services et des interfaces différentes. Donc il faut bien distinguer de quelle plateforme on parle et de quel réseau social, etc. Les travaux portant sur les digital labs montrent l'existence d'un phénomène d'extension du travail en régime numérique. Cette économie de la visibilité procéderait donc d'une injonction à accroître sa double présence des artistes dans l'espace numérique, mais aussi physique, on peut parler des labels aussi bien évidemment, hein. Laissant, mais bon qu'on parle de DIY, bon, voilà. Laissant aussi entrevoir un régime de production régi par un principe de mobilité. Et là c'est très important, hein. Dans le cas des punks, faire des tournées toujours plus longues et toujours plus loin devient un enjeu crucial afin d'accroître leur visibilité et espérer en fin de compte rembourser les frais engendrés par sa pratique de musicien. On ne parle pas de faire de l'argent là. Ces travaux restent néanmoins problématiques puisqu'ils reposent sur une conception du travail numérique ne comprenant que sa dimension abstraite. Alors là, je renvoie à une critique marxiste. Et on oublie par conséquent la part subjective des travailleurs. Ils ne prennent pas en compte un fait empirique, selon moi incontestable, hein, celui de leur pratique d'échange de données entre producteurs, la question de leur consentement à ces dispositifs de pouvoir, hein, on va l'appeler comme ça en termes foucadiens, n'est ainsi que peu questionné. Donc là, je vous invite à lire les travaux de Sébastien Broca là-dessus, puisqu'elle est, selon nous, trop vite rabattue sur le constat d'une aliénation qui prend les allures du consentement. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet assez complexe à traiter. Bon, là, on va parler du punk maintenant. On va faire une petite revue de littérature d'après ma thèse. Bon, à côté de ça, et je ne parle pas du projet PIN, hein, à côté de ça, le punk est bien souvent analysé de par sa capacité à l'auto-organisation. Voilà. Le principe de débrouille, fortement articulé à l'esprit de liberté que porte le punk, le fais-le toi-même, hein, signifierait en réalité libère-toi des contraintes matérielles et artistiques, sociopolitiques, qui structurent la société contemporaine. Le fameux du coup du do-it-yourself, DIY, fais-le toi-même est érigé pour certains chercheurs en une réelle éthique, une philosophie, donc Eddige, voire en une réelle critique en acte, donc je cite Simon Le Roulet en 2016, du modèle productif dans un monde industrialisé. Elle viserait l'émancipation de l'hégémonie des industries culturelles en mêlant les pratiques de production des œuvres de leur diffusion. Certains sociologues en viennent même à dire que la forme politique est foncièrement anticapitaliste, que sa forme politique est foncièrement anticapitaliste qu'aurait pris le punk à partir des années 80 et la forme aboutie qu'elle devait naturellement prendre. Punk et indépendance sera alors synonyme. Et le punk devrait être étudié à travers les manières dont il parvient à acquérir cette liberté. À partir de là, le qualificatif punk obtient une valeur symbolique forte, puisqu'il devient le label fort de la contre-culture. C'est la fin de l'histoire, quoi, en gros. Bon, là, je vais parler de ma problématique, pardon, hein, du coup, je passe les slides, hein, désolé, hein, j'essaye de faire vite. Si le punk devait être défini par sa capacité à créer soi-même les conditions de son indépendance, on devrait s'attendre à ce que tous les punks refusent de mettre leur production sur les plateformes de streaming. On est d'accord avec ça. Or là, on a un problème. Au travers de mes recherches, tous les groupes encore en activité que j'ai étudiés, qui sont encore en activité aujourd'hui, ils ont tous mis leurs œuvres sur Spotify. Même les groupes les plus politisés, dont certains membres vivent en squat, hein, donc avec des migrants, donc qui, comment dire, ont un engagement qui dépasse le cadre des discours. Hein. Donc c'est-à-dire que dans ce cas, on parle de personnes dont l'engagement, voilà, au-delà des discours, je l'avais écrit. Pour expliquer cette contradiction, il manie par exemple les slogans "Make money for revolution" pour justifier, entre autres, du fait de jouer dans des salles subventionnées. D'autres vont carrément dire, bon, je ne vais pas citer les noms parce qu'il faut rester anonyme, mais que c'est une réelle comment dire, opportunité, hein, pour leur groupe. Hein. Alors, évidemment, c'est les groupes qui ont le plus de visibilité qui parlent comme ça. Pour autant, et là c'est important, leurs productions sont valorisées. Valeurs économiques qui sont captées par ces intermédiaires devenues incontournables, contredisant ainsi les revendications à l'autonomie portées par l'ordre DIY des punks. Donc, là, je pose la question, c'est comme ça que je pose ma problématique. Hein. Comment se fait-il alors qu'ils peuvent dire faire de la musique punk pour promouvoir des valeurs opposées au mainstream et à l'établishment, et en même temps mettre leur production sur les mêmes plateformes que Kanye West? Voilà. Bon, là, c'est, pour moi, c'est une réelle problématique. Hein. Bon, les résultats de PIN, parce que là, il faut remettre un peu les points sur les i et pas, comment dire... se concentrer sur certains bouquins qui sont sortis là récemment et qui, à mon avis, sont fallacieux. Hein. On en reparlera si vous voulez, mais bon, là, il y a un problème, à mon avis. Donc, je rappelle les résultats de Luc et Solveig, notamment, mais des chercheurs de PIN, hein, avec qui je discute, hein, évidemment, et je m'inscris. Donc, ils ont montré que ces revendications politiques attachées à la musique punk, surtout en France à partir des années 80, feraient davantage suite aux difficultés des groupes provenant des scènes underground à vivre le succès. Rappelons aussi que la transition difficile entre le vinyle, la cassette, puis le CD, produit en France une chute des ventes des albums à hauteur de 40%. Donc c'est une réelle première crise du disque. Hein. Quand on parle de crise du disque, on parle de celle des années 2000. Bon, ben là, on peut parler de celle-ci. Les majors sont désormais en difficulté économique et ont été davantage frileuses à l'idée de signer de nouveaux groupes. Donc les groupes n'ont alors que d'autres choix, hein, que de prendre la voie de l'autonomie. C'est lorsque les groupes venant du monde de la débrouille sont captés par ces majors et par conséquent se professionnalisèrent qu'il y ait eu un certain clivage identitaire et générationnel. De ce qui sera perçu comme une trahison à l'authenticité punk, émergera une scène plus radicale dont les punks se distinguèrent en s'opposant à l'idée de professionnaliser le punk, mettant en place tout un discours devant promouvoir le DIY contre toute tentative de récupération de l'extérieur. Ces scènes s'autonomisèrent en faisant valoir une idée de la pureté de l'engagement qui doit apparaître désintéressée de toute poursuite de carrière. Donc je renvoie aux articles, évidemment, hein, Pierre Rabout, le livre qu'il a écrit, les travaux de Luc et Solveig, bref, tout ça, quoi. Donc, je passe, désolé, hein, j'ai du mal à suivre. Donc maintenir le punk hors sol, hein, désolé, pour, je ne sais pas si la traduction est très bonne. Mais pour que ces discours sur l'indépendance aient pu quand même se maintenir malgré les contradictions apportées par ces travaux de recherche dont je viens de citer, ils ont dû reposer sur quelques indéterminations entretenues dans la définition des activités punk. Ce positionnement, pour expliquer leur engagement, a la faiblesse, selon nous, de se rendre aveugle à l'objet lui-même. Cette approche procède d'un effacement de la musique en faveur d'une analyse portée sur les valeurs politiques. Si nous devions pousser radicalement la fiction de l'authenticité punk jusqu'à ses derniers retranchements, cela reviendrait à dire qu'un véritable punk devrait abandonner toute aspiration politique. À ce jeu-là, la radicalité et dans un souci de cohérence, il aurait tout simplement fallu décréter que le punk fut une fiction et ainsi arrêter d'exercer toute sociologie de l'art au profit d'une analyse purement politique. Donc du coup, cet angle de la rupture, hein, comme on va appeler, a contribué à déraciner le punk en oubliant l'aspect de production culturelle de leurs activités. De cette revue littérature réalisée dans ma thèse, jamais le principe productif n'est questionné, il va toujours de soi. Ces analyses font l'économie de l'objectivation des relations entretenues avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient humains et non humains, mais qui pourtant déterminent leurs pratiques. Audrey parlait de la mairie, bon, bien évidemment, hein, des subventions, etc. On pourra en parler pendant un bon moment, si vous voulez, après, pour les questions. Nous soutenons pas, par conséquent, que cette approche visant à définir le punk par sa capacité à rompre les liens avec le reste de la société procède d'un non-sens historique, voire sociologique, et reproduit les enjeux d'authenticité propres à la scène, mais au sein du champ académique de la recherche. Seulement, la globalisation des pratiques numériques a rendu visibles les interdépendances qui furent auparavant ignorées. Les punks ne dérogent pas à la règle, puisqu'ils n'ont d'autre choix que de se soumettre aux lois des plateformes de streaming et aux réseaux sociaux. Ils sont en effet nécessaires pour créer et maintenir les liens de coopération dont les punks ont besoin pour diffuser leurs œuvres. Il faut, selon nous, redonner un ancrage socio-historique au punk actuel. Hein, là, c'est ce que vous faites, hein, mais bon, là, pour ma scène, hein, je parle pour moi, du coup, hein, pour les acteurs dont je parle. On ne peut plus faire semblant qu'ils ne font plus partie de l'industrie culturelle, quoi. Donc, le cadre de notre travail, du coup, selon nous, une approche serait intéressante pour tenter de définir ce que font les punks, et je m'inscris complètement dans la continuité d'Audrey. Elle consiste à rapprocher les activités punk du domaine du travail artistique. Un autre problème se pose alors, comment considérer ces pratiques comme du travail alors que les acteurs eux-mêmes disent que ça n'en est pas, quoi. Donc là, c'est un vrai enjeu, hein. Cette idée nous a été inspirée d'un travail scientifique en cours et initié notamment par le sociologue Marc Perrenoux dans le cadre du réseau de recherche international Working Music. Je rêverais que dans une prochaine journée d'études, on le fasse parler, hein, donc je fais un appel du pied à mes co-directeurs. Il a le projet ambitieux de contribuer à la compréhension des évolutions spectaculaires que connaît actuellement l'industrie musicale en régime numérique. Donc là, je reprends les mots de Nick Prior pour le concept. Il y a un article sur lui sur Kern, donc voilà. Je ne vais pas décrire trop le concept. Ce concept a été développé par lui. Ces chercheurs expliquent que, mais je pourrais en parler après si vous voulez, ces chercheurs expliquent que la dite révolution numérique n'aurait été effective que par un nombre restreint d'acteurs particulièrement visibles. Ce positionnement procède d'une volonté de remettre au centre de la recherche les conditions de travail des artistes et répond au manque de recherche dédiée à cet objet et à l'aune d'une nouvelle configuration de la production culturelle. En effet, l'état de l'art actuel a concentré son analyse essentiellement sur l'étude des problèmes d'adaptation dont ont dû faire preuve les majors face au bouleversement du numérique au profit du développement des grands distributeurs numériques à l'instar du géant suédois Spotify. En s'inspirant de Menger, Perrenou donna une épaisseur théorique supplémentaire au concept bourdieusien de double vérité du travail, faisant converger l'approche interactionniste avec celle de la domination. C'est ainsi qu'il rendit opérationnel ce concept de dramaturgie sociale pour faire ressurgir la pluralité des répertoires subjectifs, trouvant sa forme la plus radicale dans le domaine du travail musical. Je cite Bourdieu, « La musique représente la forme la plus radicale, la plus absolue de la dénégation du monde, et spécialement du monde social qui réalise toute forme d'art. » Le concept de désintéressement rappelle également celui développé, et là je remercie Luc, pour me rappeler ça, par Goffman, qui appela la distanciation au rôle dans un de ses essais composant son livre « Encounters, Two Studies in the Sociology of Interaction ». Il décrit ce refus d'un statut social formel imposé dans un système particulier, d'activité particulier. Donc du coup, j'en reviens au punk. Ne pas se considérer comme un artiste et donc se mettre à distance du rôle de producteur d'œuvres serait nécessaire à l'obtention du coup de gains symboliques, c'est-à-dire pour être reconnu comme un artiste punk authentique. Le fait d'affirmer ensemble des valeurs antiprofessionnelles serait une manière d'affirmer ces pratiques et de construire collectivement des conventions, des contenus culturels suffisamment efficaces et partagés pour pallier les contraintes objectives du travail artistique. Il y a donc, selon nous, un triple intérêt à reconnaître leurs pratiques comme relevant du travail. 1. Rappeler que ce qu'ils font, c'est la production et la diffusion d'œuvres culturelles. 2. Redonner un ancrage social à ces pratiques, puisque pour produire et diffuser, il faut, comme l'a montré Becker, collaborer avec un certain nombre d'acteurs importants et extérieurs aussi à la scène. Et 3. Reconnaître les pratiques de ces musiciens au travers de leur propre régime de compétences et ne pas simplement les cantonner aux marges sociales. Bon, et il me reste 2 diapos. Le régime... le travail en régime de plateforme, le problème du punk. Même les pratiques amateurs qui semblaient auparavant les plus éloignées des processus de marchandisation, voire qui en étaient de farouches résistantes, à l'image de ces scènes punk, sont dorénavant embarquées dans ce tournant global de la culture. La mise en ligne des œuvres punk sur une même plateforme comprenant ainsi et de façon indifférenciée des œuvres de stars considérées comme telles contribue à brouiller les frontières déjà bien fragiles entre ce que l'on nomme amateur et professionnel. Il se trouve ainsi de manière faussement horizontale sur une plateforme numérique que des professionnels en dégagent des rétributions économiques et pas les punks, quoi. Si l'authenticité punk repose sur la faculté des membres à construire leur propre régime d'authenticité, cette valeur symbolique attachée aux œuvres s'en retrouve alors neutralisée. Privé ainsi du privilège de l'opposition, je reprends des cartes, il se retrouve être de simples utilisateurs d'une plateforme. Et là, je conclue du coup. Nous savons depuis longtemps que c'est dans le travail artistique que l'on trouve les modes d'organisation de travail de demain. Je cite Boltanski, Chiapello, Menger, Perrenou et beaucoup d'autres. Que ce soit, je cite Bataille et Perrenou, le rapport fractionné à l'emploi, l'organisation du travail par projet, on connaît bien ça, hein. Inégalité de revenus et de réputation à la fois très importante et considérée comme illégitime, l'engagement dans l'activité totale mais éphémère, appariement sélectif, incertitude et individualisation du talent singulier sont quelques caractéristiques habituelles du travail artistique en régime romantico-entrepreneurial. Aussi, nous savons que le modèle entrepreneurial reposant sur une structuration de la production par projet s'est imposé dans de nombreux secteurs de l'économie, comme par exemple celui de la recherche, et a été inspiré directement du développement industriel de la culture depuis les années 1960. Et là, je prends la recherche de Benz, Ferreira, Alves et Poulard de 2007. Donc, dernière phrase, je conclue. Dans le cas du punk, les pensées comme des producteurs d'œuvres ainsi que leurs pratiques comme relevant du travail artistique permettraient de leur redonner une place dans une division sociale du travail toujours plus segmentée, alors même que leurs discours paraissent contradictoires. Dans ce contexte où l'artiste fait figure de travailleur exemplaire, je reprends les mots de Menger, se concentrer sur les conditions sociales du travail de production culturelle dans les zones les plus démarginalisées semble crucial pour tenter de rendre compte de leur engagement à perte et sans profit. Voilà, j'espère que vous appréciez le jeu de mots de fin. Je voudrais juste dire un mot de fin. Je pense que les politiques publiques, là, aujourd'hui, ont un réel... rôle à jouer sur, par exemple, le financement d'une plateforme peut-être alternative où on répertoriait toutes ces scènes-là dites authentiques. Et peut-être qu'un travail, par exemple, d'un projet d'étude comme PIN pourrait, par exemple, analyser avec les chercheurs concrètement ce qu'ils auraient besoin comme plateforme. Et imaginons peut-être plus tard, je ne sais pas, voilà, je fais un autre appel du pied, imaginons. Bon, voilà, je rêverais de voir un truc comme ça aussi. Merci beaucoup.
Bien, merci Manuel pour cette communication très, très dense. Et tu as fait beaucoup de promesses, hein, sur j'en parlerai après. Donc, il y a peut-être des questions, des remarques, des demandes de précision, de prolongement. Oui, c'est parti.
Merci pour cette communication. Ouais. Moi, j'ai une première question sur sur les subventions. Ouais. Donc, cette histoire de subvention, c'est connu de, enfin, c'est un problème qui existe depuis très longtemps dans le monde punk. Et le groupe, il y avait un groupe d'artistes qui était lié au punk qui s'appelait Collab à New York. Okay. Et qui avait des slogans assez agressifs du genre get wrecked, get political, défoncez-vous, faites de la politique. Et un autre de leurs slogans, c'était the money, not the institution. Donc en gros, pour eux, il fallait avoir de l'argent et faire ce qu'on voulait derrière. Il y avait cette idée d'une certaine ambiguïté comme ça. Donc la question, c'est, est-ce que là, c'est des choses comme ça qui se passent? Donc ça, c'est question 1. J'en ai 3. Prends des notes. C'est qu'est-ce que vous pensez du fait que des remasterisations, c'est-à-dire, parce que vous dites, en gros, sur des mêmes plateformes, on a des titres qui sont proprement punk et d'autres qui sont ultra commerciaux. Mais qu'est-ce qu'on dirait? Alors, est-ce que si Joy Division est remasterisé et mis sur YouTube, alors il est plus punk?
Là, vous avez raison, il y a un gros enjeu à ce niveau-là. Mmh.
Ouais. Mmh. Voilà. Mmh. Et est-ce que je me rappelle de mon troisième point? Non. Donc voilà, ça suffira pour...
Peut-être le temps de la réponse.
C'est ça. Merci.
Super question. Alors, je l'attendais vraiment, cette question-là de l'autonomie, de l'indépendance, du mythe de l'indépendance. Je rappelle juste une chose, hein, il me semble que Bourdieu avait répondu à cette question-là il y a un petit moment, et pas que lui, hein, d'ailleurs, hein, mais le champ culturel, comment il a gagné son autonomie? Il a toujours été balancé, hein, entre le marché, donc ce qu'on vendait dans le marché, donc les artistes qui pouvaient avoir comme rétribution économique, et l'État qui arrive pour soutenir les œuvres dans le pôle de restreinte production. Donc concrètement, penser qu'un champ culturel et puisse, comment dire, des acteurs du champ culturel puissent être foncièrement indépendants, il faut évacuer ça, je pense, de suite, cette question, parce que c'est un non-sens pour moi, hein. Alors, pour la question justement de l'indépendance, alors oui, bien sûr, dans les discours, bien sûr, la plupart ils diront non, je veux pas, etc. Mais j'ai plein d'éléments empiriques, on pourra en parler pendant 1000 ans de ça. La salle de concert dont je parlais ce matin, ils ont été subventionnés à minima. par la mairie qui ont fait, ben voilà, bah, t'avais montré ça aussi, hein, Chaban-Delmas, c'est une politique héritée de Chaban-Delmas, hein, on fait le médiateur avec la préfecture, donc le bras droit de l'État, et en même temps, on, c'est la main gauche qui subventionne à minima pour dire, regardez, on fait quand même quelque chose pour la culture, mais à l'arrivée, la salle, elle a fermé, et ils étaient bien contents, enfin, ils étaient bien contents d'avoir, comment dire, un lien avec la mairie de Bordeaux, quoi, cette salle-là. Donc c'est le Void, hein, qui a fermé depuis. Ils étaient contents parce qu'ils disaient, oh, il y a personne nous considérer, etc. Et ils n'ont pas vu la douille arriver après, quoi. Et on a mis du temps à comprendre aussi ce qui s'était passé, hein. Bon, plein d'autres exemples. Moi, je travaille sur les parcours des punks, hein, donc. Comme j'ai dit, là, j'ai fait des gros entretiens et l'un des gros enjeux, c'était de savoir comment ils avaient construit leur parcours, où est-ce qu'ils avaient répété, le matériel qu'ils avaient eu pour tourner, etc. Ils bricolent tous avec les mairies, avec des vannes qui sont filées par une mairie. Enfin, bah, ils ont tous des avantages, peut-être en nature, mais de smack du coin. Et ça, il faut le voir finement. C'est-à-dire l'analyser, c'est vraiment l'analyse qualitative toute fine, qui ne sont pas des contrats, qui ne sont pas des dossiers de subvention, certes, mais c'est quand même, ils s'adossent quand même sur ce genre de choses. Et en même temps, ils mettent leur production sur Spotify. Et là, il y a une telle, comment dire, c'est tellement difficile de continuer à produire et à diffuser. Alors, je dis pas que c'était plus simple avant, c'est pas ce que je dis, mais ils sont obligés de bricoler. Ils sont obligés de bricoler avec tous les acteurs. Et certes, ils le disent pas comme ça, évidemment, mais dans les faits, quand on discute avec eux, comment t'as fait, etc. Bon, et il y a aussi un autre truc que là, je suis content de l'avoir trouvé parce que, souvent ce qu'ils disent, c'est que je leur demandais, par exemple, dans les entretiens, est-ce que tu fais la promo des personnes qui avaient aussi un label et un groupe, je leur demandais, est-ce que tu fais la promotion de ton propre groupe? Et ils me disaient, c'est surtout un qui m'a dit, non, moi jamais, moi le marché, etc., je suis pas un produit, etc. Ok, d'accord. Plus loin, une heure, parce que j'ai fait des gros entretiens, une heure dans l'entretien, je lui demande, est-ce que tu fais via ton label, du coup, la promotion pour les groupes que tu sors? Il me dit, bah, bien sûr, ils ont confiance en moi, etc. Et je dis, oui, mais attends, mais du coup, tu sors ton groupe sur ton label? Il me dit, oui. Donc, du coup, tu fais la promotion de ton groupe. Et oui, mais c'est via mon label. Donc, du coup, il y a une sorte de... Ça fait écran, en fait, si vous voulez. Il y a une sorte de distance par rapport à là. Alors, je ne veux pas leur mettre les bâtons dans les roues à ces punks-là. Ils font comme ils peuvent, quoi. Et je ne dis pas qu'ils sont foncièrement déterminés par ça, hein. Mais il faut bien voir ça. Et ça, il n'y a que de l'analyse qualitative pour bien voir et être patient pour observer ce genre de choses-là. Donc, voilà. Donc, j'ai mis du temps, hein, à comprendre les mécanismes, on va dire, de ça. Bon, pour la question de la remasterisation. Alors, c'est une très, très bonne question parce que, en effet... En fait, ce qui fait la différence sur Spotify, il faut bien voir en fonction des plateformes. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien voir le modèle économique, etc. Et c'est très opaque, hein, même ça. Donc là, je devais avoir un entretien avec un gros distributeur français. Bon, je ne l'ai pas encore eu parce que je suis encore dedans pour voir bien comment ça fonctionne, l'algorithme, etc. Donc ça, je sais que je n'aurai pas de réponse là-dessus. Mais bon, bref. C'est qu'en fait, un groupe, en posant sa production, et même s'il expose, il aura toujours moins d'argent qu'un groupe qui, aura capitalisé sur le nom, sur le fait qu'il est plein d'écoutes, mais sur un ton long. Et donc Metallica fera plus, par exemple, d'argent qu'un autre groupe, je sais pas moi, un truc qui a explosé récemment, là, qui dure pas trop. Enfin, je sais pas, on peut trouver d'autres artistes, mais... Donc c'est une réelle sa question à poser, et à mon avis, c'est... vous avez vraiment raison de poser cette question, parce qu'il y a un besoin, à mon avis, de... redéfinir les valeurs de rémunération sur lesquelles on se base, quoi. Parce que là, concrètement, c'est du vol, quoi. Enfin, moi, je le conçois comme ça, hein, concrètement. Parce que les plateformes de streaming, elles vivent en grande partie des productions amateurs qui se feront jamais une thune et qui se rembourseront jamais d'avoir mis leur production sur le streaming, quoi. Donc, c'est pas possible, quoi. C'est une autre économie, là, qu'il faudrait, à mon avis, essayer de... Voilà, de réinterroger, quoi. Et je tiens quand même à dire que les plateformes de streaming sont tous déficitaires de plusieurs millions d'euros. Elles n'ont pas d'argent, hein, concrètement. Alors, comment elles arrivent à survivre, ça, c'est encore une autre question. Donc, voilà.
Je crois que la question de Céline, c'était sur l'affichage. Hein. En fait, si on met Joy Division, c'était ça ta question. Hein, sur est-ce que ça la dépunkise, en quelque sorte? J'ai bien résumé.
Franchement, là, je saurais pas comment répondre à cette question. Hein. Ouais, je sais.
Alors,
pas,
ouais. En fait, c'est une question qui est vraiment super intéressante et très ouverte. Parce qu'on a organisé avec Solveig et le groupe Pind une journée d'études sur, on l'avait appelé réussir dans le punk. C'était très provocateur. Hein. Et en réalité, alors il y avait deux sens. Il y avait comment les punks gèrent un truc qu'ils n'ont jamais su gérer, en fait. La célébrité, la lumière, la réussite, c'était le premier. Et le deuxième axe, quand même, la réussite, c'était plus ontologique. C'est-à-dire, comment on se construit, comment on réussit. Mais enfin, sur le premier axe, je te rejoins, hein, c'est une question qui est compliquée sur les identités. Et tu l'as bien posé au début, c'est-à-dire, quel est ce paradoxe étrange qui fait que des groupes qui veulent s'autonomiser, en quelque sorte, de tout un tas de systèmes, du système en général, mais consomment le système. Alors, un élément de réponse, et je reviens à ce que tu disais, serait de dire, ils rentrent dans la pomme comme le ver, pour la ronger de l'intérieur et construire des systèmes indépendants dans le... Voilà. Mais moi, j'en sais rien. Voilà, c'est une hypothèse. Hein. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres...
Je voulais juste apporter un complément d'information, tel que je l'ai vu. Je pense qu'il y a une grande part, par exemple, dans la différence entre les groupes de la première génération et les groupes de la seconde génération, et en particulier sur le fait que la plupart du temps, les groupes de la première génération ont accepté des contrats en major et la seconde génération beaucoup moins. Pour la France, il faut quand même prendre en considération la part de mimétisme. C'est-à-dire que c'est arrivé en Angleterre, les majors n'étaient plus intéressés aussi par la deuxième génération qui était musicalement plus dure et donc aussi commercialement plus difficile à vendre. Et les jeunes Français qui sont devenus punk à partir de 1980, leur modèle, c'est les tout petits labels et l'autoproduction anglaise et américaine. Et du coup, souvent, je pense qu'ils ont fait la même chose par mimétisme et pas réellement par choix affirmé. Après, on peut prendre des postures en disant « jamais les majors ». Mais de toute façon, des majors françaises qui ont voulu des groupes punk de deuxième génération, il y a pas, en 80, en tout cas, ça n'existe plus. Hein. Ça, c'est la première chose. Et je trouve que souvent, bien sûr, il y a des gens qui font des vrais choix en disant « Voilà, moi, ça, c'est ma limite, je ne veux pas travailler avec un tel, je ne veux pas faire ci. » Mais moi, j'ai vu un truc, c'est que dans les années 80 et début des années 90, il y avait des gros distributeurs indépendants. La plupart des groupes punk sortaient un disque sur des petits labels, mais étaient distribués par ces gros distributeurs indépendants. Du coup, ils étaient vendus dans les Fnac, dans les Nuggets, dans les Virgin. À partir du début-milieu des années 90, toutes ces grosses structures ont décidé qu'elles voulaient travailler avec le moins de possible de distributeurs et qu'elles ne voulaient plus avoir pléthore de références qui parfois se vendaient à... 40 exemplaires, ce qui, pour une FNAC, n'a aucun sens en gestion de stock, en gestion de tout ce qu'on veut et de rationalité. Et du coup, aujourd'hui, il y a une grande partie du marché du punk français qui se vend en circuit fermé, c'est-à-dire les distros, les VPC, quelques boutiques indépendantes pour ce qu'il en reste, et la vente sur des sites punk sur Internet, la vente en ligne, mais restant dans le do-it-yourself total. Mais c'est un do-it-yourself qui est subi bien plus que choisi, en fait.
Je suis d'accord, hein.
Il n'y a aucun groupe à l'époque qui a dit « Ah, la FNAC ne veut plus nous distribuer, c'est fantastique ». C'est pas vrai. Enfin, j'en connais pas, moi, en tout cas. Voilà.
Ok. C'est
juste sur le mimétisme, je pense quand même à beaucoup à relativiser quand même, même si j'entends, hein, mais bon, le Festival de Mont-de-Marsan, tous ces trucs-là... je pense que là, on peut pas parler de mimétisme. Premier festival punk, quoi. Il était français. Les Strychnine, il y a quand même une scène qui était là, quoi. Je pense aussi qu'il y a un rapport épistémocentriste, bloqué sur les recherches anglo-saxonnes. C'est pour ça qu'il y a aussi une nécessité à réaffirmer que, le punk était aussi là en France. Mais qu'il y avait des pratiques aussi qui étaient propres aussi, des manières de faire qui étaient propres, quoi. Enfin, de bricolage, quoi. Ouais. Mais merci en tout cas pour le...
Bien, merci pour cet échange sur ce thème qui est fondamental. Hein.
Ouais.
Je crois qu'on peut réapplaudir Manuel.
Merci, c'est cool, merci.